Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
C'est une semaine spéciale Marie-Antoinette que nous propose Franck Ferrand à compter d'aujourd'hui. Bonjour Franck.
Bonjour Ombline, bonjour à tous. Cette semaine spéciale, je voudrais la dédier au grand monsieur qui vient de s'en aller. Ce week-end, Pascal est endeuillé, vous le savez, par la disparition d'Alain Decaux. Je le dis tout net, sans Alain Decaux, l'émission qui nous réunit cet après-midi n'existerait pas. C'est lui, en effet, au début de l'année 2003, qui m'avait conseillé de faire de la radio. Il m'y a encouragé. Autant dire qu'après m'avoir donné, comme à des millions de Français, le goût de l'histoire, il est celui qui m'aura mis en situation de vivre cette passion au quotidien. La douceur et la bonté de cet homme étaient légendaires. Sa politesse était exquise, sa rigueur exemplaire, son savoir presque sans limite. On m'a beaucoup demandé depuis hier s'il était pour moi un modèle. Alors oui, je le dis clairement, un modèle, un repère. Alors, au nom des amoureux de l'histoire, très grand merci, cher Alain, pour ces heures merveilleuses que vous nous avez permis de vivre à travers vos émissions, vos conférences, vos articles que nous citons si souvent ici et vos ouvrages qui continueront de nous accompagner. Cette semaine consacrée à une souveraine que vous connaissiez comme personne, nous vous la dédions comme nous pourrions vous dédier chacun de nos rendez-vous au cœur de l'histoire.
Europe 1. Au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Voici une semaine où vous allez être sous le charme, c'est en tout cas le vœu que je forme, sous le charme d'une femme hors du commun, sous le charme de la plus charmante, de la plus célèbre en même temps que de la plus difficile à bien comprendre des reines de France, un mélange insaisissable et presque exaspérant de profondeur et de frivolité, de grâce et de maladresse, d'inconséquence coupable et d'infinie grandeur. Bienvenue chez Marie-Antoinette et pour commencer cette semaine spéciale, bienvenue chez elle au sens propre, car à qui veut se donner une chance de percer le mystère de la dernière souveraine de l'Ancien Régime, je crois qu'il n'est pas de meilleur moyen que d'aller la chercher en ses pénates, à Trianon bien sûr. Huysmans et Jallul l'ont écrit, je les cite, du jour où Marie-Antoinette comprend qu'elle est devenue reine, à celui où elle quitte pour toujours Versailles, ses rêves, ses goûts, ses bonheurs s'expriment dans l'exigu palais de Trianon et dans son parc de modestes dimensions. C'est le vrai miroir de son être profond. Voilà pourquoi, si Trianon a été d'abord pour Louis XIV une grande construction de marbre rose, et si le petit Trianon a été édifié par Louis XV pour Madame de Pompadour, puis habité par lui avec Madame du Barry, les deux noms de Trianon et de Marie-Antoinette restent à juste titre indissolublement associés. Dès le 7 juin 1774, avant même que n'ait eu lieu à Saint-Denis le service funèbre à la mémoire du roi Louis XV qui vient donc juste de mourir, dès le 7 juin 1774, l'ambassadeur de Marie-Thérèse à Versailles, le comte de Mercy-Argenteau, écrit à l'impératrice, je le cite, « Lorsque Madame l'archiduchesse était encore dauphine, elle désirait beaucoup d'avoir une maison de campagne à elle en propre. » À la mort du roi, le comte et la comtesse de Noailles suggérèrent le petit Trianon. Au premier mot que sa majesté en prononça au roi, il répondit que cette maison de plaisance était à la reine et qu'il était charmé de lui en faire don. Alors on raconte, c'est un chroniqueur de l'époque qui a monté cette histoire, il nous raconte que le jeune monarque aurait dit les choses d'une manière nettement plus galante. « Vous aimez les fleurs, aurait dit Louis XVI. Eh bien, j'ai un bouquet à vous donner, c'est le petit Trianon. » Évidemment, c'est beaucoup plus joli, c'est sûrement moins vrai historiquement. Ce domaine de Trianon se trouve vraiment en bordure du petit parc de Versailles. Il est vraiment à quelques encablures du château, à un quart de lieue, comme on disait à l'époque, c'est-à-dire un kilomètre environ. On y va en moins de 10 minutes, qu'on y aille à cheval, en voiture, en vinaigrette aussi, comme on disait à l'époque, pour désigner les toutes petites voitures exprès installées sur le chemin de Versailles. À Trianon. On est néanmoins en dehors des grandes lignes de le nôtre, on est loin de l'austérité du petit parc, on est surtout, et c'est ce qui intéresse la reine, on est très loin loin des contraintes de la cour. N'oubliez pas que Marie-Antoinette, avec les habitudes contractées à Schönbrunn et dans, à la cour de Vienne de son enfance, avec surtout ce sens naturaliste déjà qui est le sien, nous parlerons de Rousseau et de son influence dans un instant avec mon invité. N'oubliez pas que Marie-Antoinette aime la campagne d'une certaine manière. On est en pleine mode des ermitages qui sont en train de fleurir dans toutes les cours d'Europe et Marie-Antoinette veut son propre ermitage. Alors dans un premier temps, elle s'installe dans les meubles de celle qu'elle déteste tant, c'est-à-dire de Madame du Barry, et la première réception à Trianon, au petit Trianon, a lieu dès le 6 juin 1774. C'est très très rapide. Alors pour l'instant, ça reste une réunion de famille. Le roi, bien entendu, ses deux frères, les deux frères du roi, donc les beaux-frères de Marie-Antoinette, le comte de Provence et le comte d'Artois, avec leurs épouses respectives, et puis Madame Clotilde, qui est l'avant-dernière sœur de Louis XVI et celle qui deviendra reine de Sardaigne. Le 2 juillet, voilà ce qu'écrit Merci. « La reine est maintenant tout occupée d'un jardin à l'anglaise qu'elle veut établir à Trianon. » Eh oui, on n'a pas perdu de temps. Sitôt Monsieur Gabriel à la retraite, Marie-Antoinette a pu jeter son dévolu sur un successeur qui lui convient, Richard Mick. Richard Mick vient de Lorraine, où il a travaillé pour le roi Stanislas. Il va se consacrer non pas à des bâtiments dans un premier temps, mais au jardin. Car s'il y avait déjà un très joli jardin à la française à Trianon, un potager, des serres, etc. Jussieu avait vécu là, ne l'oubliez pas, et puis Antoine Richard avait entretenu tout ce jardin botanique. La reine veut son propre jardin dit à l'anglaise, ce qu'on appelait à l'époque plutôt un jardin chinois sur le modèle de celui que le duc de Chartres s'était fait installer à Monceau, vous savez, avec des rochers, des pagodes, des cours d'eau vagabonds, un jeu de bagues chinois, etc. Le premier plan que livre Mick est un plan extrêmement ambitieux. Il y a deux rivières, il y a tout un tas d'îles, des rochers très haut avec des grottes, des bosquets qui sont imbriqués à tout cela, un temple, une pagode, une volière. C'est tellement beau, c'est tellement compliqué et surtout c'est tellement cher que c'est refusé. La reine s'est rendue rue Saint-Dominique chez le comte de Caraman. Elle a trouvé là un jardin beaucoup plus naturel, beaucoup plus simple, avec une seule rivière, avec des pelouses, peu de rochers. Voilà ce qu'elle veut en fait. C'est de ce modèle-là qu'elle va vouloir reproduire à Trianon avec des dépenses relativement modestes, quelques dizaines de milliers de livres, direz-vous. C'est encore trop pour M. Turgot. Et du reste, le bras de fer, si je puis dire, entre la jeune souveraine et Turgot sera sans doute à l'origine du renvoi du grand ministre. L'étiquette à Trianon est très allégée. Quand la reine entre au salon du petit Trianon, le pianoforte continue à jouer, les métiers à tisser ne sont pas interrompus. On aura bientôt une tenue pour Trianon. Percale blanche pour les dames et pour les messieurs, une redingote, je cite, « couleur suie des cheminées de Londres ». Ne vous fiez pas à cette apparente simplicité. Le domaine de la reine sera véritablement le domaine du luxe. Il y aura ceux qui sont admis et tous les autres qui restent à la grille et qui déjà commencent à gronder.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Au cœur de l'histoire de Marie-Antoinette, semaine spéciale en compagnie de la reine de France sur Europe 1, Marie-Antoinette, qui nous reçoit au petit Trianon.
Dans un très bel essai critique consacré au caractère de la Bruyère, Roland Barthes parle de l'inland de la mondanité. J'aime bien cet article parce qu'il décrit exactement ce qu'on a vécu à Trianon au temps de Marie-Antoinette. Vous savez, il y a les personnes qui ont le brevet, comme on dit, qui ont le droit d'entrer à Trianon, qui ont la tenue, qui ont le ton, qui ont l'habitude. Et puis il y a tous ceux qui n'y sont pas admis, ceux qui sont in et ceux qui sont out, dirions-nous aujourd'hui. Voilà ce qui va créer ce qu'on appelle un esprit de coterie. Madame de Bombelle, en 1781, le dit avec beaucoup de dureté. En tout, dit-elle, cette société est composée de personnes bien méchantes et montée sur un ton de morgue et de médisance incroyable. Ils se croient faits pour juger tout le reste de la terre. Ils ont si peur que quelqu'un puisse s'insinuer dans la faveur, entendez, dans la faveur de la reine, qu'ils ne font guère d'éloges, mais ils déchirent bien à leur aise. Il faut cependant voir tout cela et ne rien dire, comme c'est impatientant, écrit-elle. Et comme elle a raison, Madame de Bombelle, et comme on aimerait qu'il y ait dans l'entourage immédiat de cette jeune reine un brin et cervelé, un esprit capable de la calmer et de la raisonner. En attendant, elle se jette à corps perdu dans les travaux de Trianon qui se poursuivent maintenant sous la conduite de l'intendant Bonnefoy du Plan. En 1777, on bâtit un temple circulaire qu'on appellera le temple de l'amour, avec d'ailleurs une statue un petit peu disproportionnée pour ce qui est de sa taille au cœur du temple. Un belvédère qu'on commence à construire aussi, Tout ça va commencer à coûter cher. Hein. Pour la seule année 1777, 300 000 livres. Aïe, ça commence. On est loin d'être au bout, bien entendu. Et déjà, la reine veut habiter les lieux et déjà, elle y organise de grandes fêtes comme celle du 7 septembre 1778, où l'on s'amuse beaucoup, mais où l'on constate l'absence cruelle d'un théâtre. Ah oui, il faut un théâtre à la reine. Eh bien, allons-y, on va édifier une petite salle. Alors, la salle elle-même, on ne la voit pas vraiment quand on est à Trianon. Elle doit être cachée sous les ombrages et sous la verdure. On n'orne somme toute que l'entrée. Mais lorsque vous l'avez franchie, cette entrée, alors vous êtes littéralement stupéfait par le luxe inouï qui règne dans cette salle dorée, surdorée, pleine de volutes, de lambrequins et d'angelots dorés. Tout ça est en carton-pâte et ça pose une question qui est celle de la postérité. C'est vrai que Louis XIV avant elle et même Louis XV ont dépensé beaucoup d'argent à Versailles et ailleurs. Mais c'était généralement pour des travaux en dur, comme on disait. Ils œuvraient pour la postérité. La reine Marie-Antoinette n'œuvre que pour elle-même et ses amis. Elle ne laissera rien de tout cela, croit-on à l'époque, puisque je vous ferai remarquer que deux siècles et quelques plus tard, le décor du petit théâtre de la reine est à peu près intact. Il a été restauré 3 fois, me direz-vous. La reine joue elle-même sur son théâtre. Elle joue le Devin de village de Rousseau. Elle joue beaucoup de Sedaine. Ah oui, on ne joue pas que des grands textes. Non, ça c'est certain. Je cite Grimm. On n'a jamais vu, on ne verra sans doute jamais le roi et le fermier ni la gageure imprévue, donc 2 pièces de Sedaine, jouées par de plus augustes acteurs, ni devant un auditoire plus imposant et mieux choisi. La reine, à qui aucune grâce n'est étrangère et qui sait les adopter toutes sans perdre jamais celle qui lui est propre, j'aime beaucoup cette expression, et qui sait les adopter toutes ses grâces sans perdre jamais celle qui lui est propre, jouait dans la première le rôle de génie, dans la seconde celui de la soubrette. Et oui, vous m'avez bien entendu, la reine de France est en train de jouer la soubrette d'une pièce de deuxième ordre d'un certain Sedaine. On commence à jaser, forcément, et comment ne le ferait-on pas ? Comme toujours, dès que vous créez un petit endroit inaccessible au tout venant, vous rendez son accès infiniment précieux et désirable. C'est le vieux principe du numerus clausus, et ça crée de l'envie, et ça crée de la jalousie, et ça va jouer un rôle non négligeable dans l'espèce de détestation dans laquelle on verra bientôt sombrer Marie-Antoinette. Trianon est l'endroit où il faut être, où il faut avoir été. On va inviter, bien entendu, des gens qui sont proches de la reine, qui sont des amis, etc. Mais on invite aussi les plus hautes personnalités en visite dans le royaume de France. Que veulent voir l'empereur Joseph II, qui donc est le frère de Marie-Antoinette? Que veut voir le roi de Suède, Gustave III? Que veut voir le tsarévitch Paul de Russie? Est-ce qu'ils veulent voir le château de Versailles? Est-ce qu'ils veulent voir l'Académie des sciences ou l'Observatoire de Paris ou le Jardin du Roi? Non. Ils veulent voir Trianon, bien entendu. Trianon et ses incroyables raffinements. Il faut imaginer les fêtes de nuit qui donnent déjà la souveraine, avec tous ces arbres chargés de lampions. Je cite un chroniqueur de l'époque, des lampions qui donnaient dans le lac des reflets si doux et des ombres si légères que l'eau, les arbres, les personnes, tout paraissait aérien. On s'amuse beaucoup, on joue au théâtre, hein, on fait l'acteur, on fait le comédien, si je puis dire. On joue beaucoup aussi au sens propre, c'est-à-dire que la reine va jouer des sommes faramineuses sur les tables du petit Trianon. Elle avait demandé au roi, on est là dans l'année 1776, donc très tôt, elle avait demandé au roi l'autorisation de jouer en misant de l'argent. Il faut dire qu'à l'époque, c'était interdit dans les différents cabarets parisiens. C'était même interdit aux princes du sang et aux membres de la famille royale. Eh bien, la reine obtient une autorisation parce que le roi, parce que Louis XVI est incapable de lui rien refuser. Simplement, elle obtient l'autorisation pour une soirée. Eh bien, qu'à cela ne tienne, la reine, à force de se gaver de café et d'autres pilules, va tenir bon avec ses amis et la soirée va durer 72 heures. On va jouer sans interruption pendant 72 heures, pendant ce week-end de la Toussaint 1776, au point que la reine perde des sommes considérables. On parle de plusieurs centaines de milliers de livres et certains disent plusieurs millions de livres. Voilà qui n'est pas bon pour la réputation de la couronne, bien entendu. Et puis les pièces de théâtre non plus ne sont pas bonnes. Vous savez que le dernier spectacle donné sur le théâtre de Trianon en août 1785 sera le Barbier de Séville avec le comte d'Artois, le beau-frère, jeune beau-frère, charmant beau-frère de Marie-Antoinette dans le rôle de Figaro, un barbier de Séville qui annonce déjà d'une certaine manière le scandale du colis. Et l'on voit à l'horizon poindre les premiers nuages. Il pleut, bergère. Il pleut, bergère.
Sur Europe 1, Maddy Mesplet avec Il pleut bergère. On se retrouve dans un instant pour la suite de votre récit, Franck Ferrand, sur Marie-Antoinette, installée au Petit Trianon.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Semaine spéciale Marie-Antoinette qui commence ce lundi au Petit Trianon et vous nous racontez, Franck Ferrand, les rapports entre la reine et l'architecte Richard Mic.
Et l'on construit encore et toujours à Trianon. Mic est à l'œuvre, il se fait plaisir, disons aussi qu'il arrondit sa petite fortune. Il a terminé la fameuse grotte qui avait été lancée dès 1777, il l'a terminée en 1782 et voilà comment nous l'a décrit un des pages de la Maison du Roi, le comte d'Ezec, dans ses charmants et passionnants souvenirs. « Si obscure, dit-il, cette grotte, que les yeux avaient besoin d'un certain temps pour y découvrir les objets. Cette grotte, toute tapissée de mousse était rafraîchie par le cours d'eau qui la traversait. Un lit également en mousse invitait au repos, mais, soit par l'effet du hasard, soit par une disposition volontaire, une crevasse qui s'ouvrait à la tête du lit laissait apercevoir toute la prairie et permettait de découvrir au loin tous ceux qui auraient voulu approcher de ce réduit. » On achève aussi le belvédère, si délicatement décoré par le pinceau de la Grenée. La reine veut maintenant autre chose. Elle a obtenu son très charmant jardin chinois, d'une certaine manière. Elle veut maintenant du pittoresque. Alors on va lui créer une sorte de phare au bord de la pièce d'eau, qui jouxte une pêcherie. Ce phare, cette tour, on va la baptiser la tour de Marlborough. Pourquoi ? Eh bien parce que depuis maintenant, la reine est devenue mère. Elle a des enfants et la nourrice des enfants, Geneviève Barbier, qu'on appelle à la cour Madame Poitrine. Cette nourrice a avec elle tout un lot de comptines et notamment elle chante aux enfants « Marlborough s'en va en guerre » et toute la famille royale maintenant connaît la chanson par cœur et tout le monde chante « Marlborough s'en va en guerre » et donc on va appeler le petit phare la tour de Marlborough. La reine s'inspire en vérité de ces espèces de paysages de fantaisie que sont en train de créer les grands de ce monde à la même époque dans toute la périphérie de la capitale. On voit par exemple à Chantilly, chez Condé, une ferme tout ornée. On voit le duc d'Orléans au Rincy fabriquer des isbas russes. On voit le prince de Ligne à Belœil s'intéresser à l'exotisme tatar. Enfin bref, chacun veut créer son paysage d'une certaine manière. La reine veut le sien. Et ce sera le paysage d'un village normand. Mic bâtit d'abord une ferme, puis un moulin en 1785-86. Vous voyez que c'est l'époque où la reine, qui est l'objet de toutes les critiques, est en train de se retirer le plus possible de la cour. Elle a besoin d'une sorte de campagne idéale et de fantaisie. Et ne vous y trompez pas. Si les façades sont peintes vieilles briques, si les toits sont de chaume, l'intérieur de la maison de la reine et des trois fabriques qui sont destinées à la reine et à ses amis sont des intérieurs extrêmement raffinés, tout à fait comparables à ce qu'on peut voir au Petit Trianon lui-même, bien entendu. Alors on a dit que la reine jouait à la bergère. Ce n'est pas tout à fait l'avis de Xavier Salmon que je cite. Une connaissance plus approfondie des lieux et de leur usage appelle à d'autres conclusions, nous dit-il avec ce style qui est bien celui de nos conservateurs. En demandant en 1783 à son architecte Richard Mic, au peintre Claude-Louis Châtelet et au maquettiste Fréret les plans, les croquis paysagers et les maquettes d'un ensemble de maisonnettes de goût normand, Marie-Antoinette sacrifiait à une mode aristocratique qui avait conduit d'autres éminents personnages à vouloir avant elle la construction d'un hameau dans leur parc. En 1783, elle demande à Mic de lui créer le sien dans la partie nord de son jardin anglo-chinois, disposé autour d'un lac sur un terrain sain d'un fossé. Les maisons se divisaient en deux groupes séparés par une petite rivière prenant naissance dans une pièce d'eau. D'un côté, l'on trouvait le moulin, le boudoir, la maison de la reine et en arrière des bâtiments pour le service. De l'autre, les logis pour le garde et le jardinier, la grange, le poulailler, la tour de Marlborough avec ses dépendances abritant laiterie et pêcherie et un peu à l'écart, la ferme. Car il y a bien néanmoins une ferme avec de vraies vaches, avec de vrais moutons et même avec des cochons. Marie-Antoinette, contrairement à ce qu'on a dit, ne jouait pas elle-même à la fermière, mais elle avait sous les yeux des fermiers qui pouvaient rendre crédible son village normand. Les séjours à Trianon, vous l'aurez compris, se font de plus en plus longs, de plus en plus fréquents. La reine, du reste, s'installe et on le sent par exemple à l'installation de sa grande bibliothèque. Vous savez, cette bibliothèque qui fait tourner la tête des bibliothèques. profil, car on cherche bien sûr ces rares reliures de Trianon qui ont été dispersées à la Révolution et dont on trouve encore parfois quelques vestiges. Ce sont de beaux ouvrages reliés en veau blond aux armes, bien entendu, avec sur la tranche CT, qui veut dire Château de Trianon. Si l'on regarde de quoi se compose, parce qu'on en a l'inventaire, la bibliothèque de la reine à Trianon, on verra qu'il y a essentiellement des romans et des pièces de théâtre. On est très loin des ouvrages habituels de littérature sacrée, etc. La reine vient ici pour se détendre. Elle a aussi, il faut le dire, et ça nous montre qu'elle devait aimer l'histoire, de nombreux ouvrages d'historiens de plusieurs époques. Trianon, nous dit Marguerite Jalhuis, est à la fois un rêve et un refus. C'est l'expression d'une fuite sous des prétextes au demeurant nullement immoraux devant les obligations, les incohérences, les facilités excessives, devant l'ennui d'une société usée. Et je crois en effet qu'il n'est pas de lieu plus emblématique de la Révolution qui monte que ces fabriques de Trianon, miraculeusement rescapées des siècles. Vous savez que lorsque les députés convoqués aux États généraux de mai 1789 visite le petit Trianon, ils demandent à voir le fameux rideau de Seine constellé de diamants de la reine. On leur dit mais il n'y a pas de diamants. Ils en étaient convaincus parce que l'image, dans l'opinion de ce lieu tellement fermé, tellement inaccessible, n'avait cessé de devenir de plus en plus extraordinaire. Alors on imagine que un certain 5 octobre 1789, par la crevasse de son lit de mousse, la reine a aperçu les dames qui, hors d'haleine, venaient la prévenir de l'arrivée des émeutiers dans la ville de Versailles. Elle a dû quitter Trianon à la va-vite. Elle n'y remettra jamais les pieds. Et son souvenir, qui reste très prégnant dans ces lieux, a inspiré par la suite tous les propriétaires et tous ceux qui ont bénéficié des charmes de Trianon. Je pense aux impératrices Joséphine et surtout Marie-Louise. Je pense bien sûr à Robert de Montesquieu, qui fera là des fêtes extraordinaires, des fêtes où l'on chantait encore « Malbrook s'en va en guerre ».«
Malbrook s'en va en guerre, Mironton, Tonton, Mirontaine. Malbrook s'en va en guerre, ne sait quand reviendra. Ne sait quand reviendra, ne sait quand reviendra. Il reviendra sa Pâques, Mironton, Tonton, Mirontaine. Il reviendra sa Pâques, ou à la Trinité. Ou à la Trinité, ou à la Trinité.
Ce chant traditionnel interprété par les musiciens de surface, on écoutait Malbrook s'en va en guerre sur Europe 1. Marie-Antoinette, au petit Trianon, nous en parlerons avec votre invité Franck Ferrand, l'historien de l'architecture Alexandre Gady.
Bonjour Alexandre Gady.
Bonjour.
Vous allez nous faire voir un autre Trianon, si je puis dire, celui de l'architecte et celui qui connaît par cœur les plans et les dessins.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Marie-Antoinette est au cœur de l'histoire et elle le restera toute cette semaine. En ce lundi de Pâques, nous retrouvons la reine de France au Petit Trianon. Franck Ferrand, vous recevez l'historien de l'art français et de l'architecture Alexandre Gady.
Alors il me semble, Alexandre Gady, que pour parler de Trianon et du Trianon de Marie-Antoinette, nous sommes dans cette semaine spéciale consacrée à la reine, il faut commencer par parler du bâtiment lui-même, du premier, de ce qui a créé le centre de ce domaine, c'est-à-dire le petit Trianon, conçu même pas pour Madame du Barry, mais pour la favorite d'avant, si je puis dire, pour Madame de Pompadour.
Oui, c'est vrai que c'est un palais de femmes,
oui.
Commandé pour la Pompadour, habité par la du Barry, offert à Marie-Antoinette, puis Napoléon, Pauline, puis plus tard Eugénie. Enfin, c'est assez fascinant ce destin de palais de femmes. Mais c'est vrai que Madame de Pompadour, au moment où la construction est décidée par Louis XV, n'est plus la maîtresse au sens charnel du terme.
Elle est plutôt la conseillère et l'amie, disons, oui.
Voilà, quelqu'un d'intime qui aide le roi, qui l'a aidé aussi beaucoup à ne pas s'ennuyer. C'est elle qui l'a poussé vers Trianon. Louis XV n'allait pas beaucoup au grand Trianon, le merveilleux Trianon qu'on appelait à ce moment-là seulement de marbre, puisqu'il n'était pas encore grand par rapport au petit. Et elle l'a poussé là parce que il était, vous le savez, neurasthénique, agoraphobe, il s'ennuyait beaucoup, et elle lui a donné une extraordinaire occupation qui fait un écho, à mon avis, avec le récit, évidemment, de ce que Marie-Antoinette fera plus tard, c'est que le petit Trianon, c'est d'abord une ménagerie.
Oui.
Il y a des poules, des pins d'âne, des canards.
On va d'ailleurs ramasser les œufs le matin. Enfin,
on traite des vaches, et en fait, toute cette scène qu'on avait plaquée dans l'imaginaire révolutionnaire et plus tard républicain de la Troisième République sur Marie-Antoinette, bah, il faut voir que Louis XV le pratique, et si on va aujourd'hui...
Le pratique peut-être même davantage entre nous.
Si on va dans le pavillon du jardin français, donc qui est la première construction en dur que Gabriel va réaliser au centre du jardin pour le plaisir du roi, prendre la collation, etc. C'est un pavillon dont le décor intérieur a été doré à tort au XIXe siècle. Mais si vous regardez la corniche, à la place des rinceaux, des enfants, des singes, des corniches, des hôtels parisiens, il y a des pintades, des poules qui sont celles de la ménagerie voisine. Donc il y a toujours eu à Trianon, et Marie-Antoinette y a fait droit, une tradition très forte qui est une tradition justement de l'agriculture, comme on dirait pour dire d'un mot rapide aujourd'hui.
Alors, il y avait aussi un jardin botanique et des serres et tout ça, bien
et
sûr.
Alors, c'est la première critique qu'on fera à Marie-Antoinette. C'est évidemment que le jardin anglais renverse le jardin
S'il y avait eu une Speff à l'époque et un Alexandre Gady, il aurait sans doute envoyé une lettre, une diatribe à Marie-Antoinette en disant « Vous êtes en train de détruire les serres de Jussieu ».
Sans doute, et d'ailleurs toute l'Europe savante lui a fait cette remarque. Une partie des plantations ont été sauvegardées. Hein. Vous savez que
envoyées à Paris, d'ailleurs.
Envoyées à Paris, au Jardin du Roi. Il y avait une autre importante plantation qui était le Jardin des Serres d'Auteuil. C'est pour ça que la SPEF aujourd'hui défend ces serres-là contre Roland Garros, évidemment. Et donc, le temps venant, on va installer un château beaucoup plus ambitieux, qui va devenir Petit Trianon par rapport au Grand, et qui est commandé à Gabriel, Ange-Jacques Gabriel, dernier premier architecte de cette longue famille, et qui va réaliser là, il faut bien dire ce que Jean-Marie Pérouse de Monclos dit joliment, un chef-d'œuvre dont on ne sait pas exactement pourquoi il est un chef-d'œuvre, mais qui est absolument incroyable, d'équilibre, de beauté, et surtout, qui est le monument, vous le savez, le plus copié au monde. Il y a une cinquantaine de copies sur tous les continents de cet édifice qui fascine, et qui est, si on veut prendre un recul d'historien de l'architecture, d'abord une extraordinaire manifestation du palladianisme à la française, puisque les Anglais, là, dans
c'est
ce domaine...
C'est une villa palladienne à la française.
Ah, tout à fait. Les Anglais nous ont doublés, depuis, comme d'habitude, depuis bien longtemps, puisqu'ils font du palladio depuis presque la mort de Palladio, en tout cas depuis la mort de Scamozzi et avec Inigo Jones. Mais les Français, là, trouvent un point d'équilibre entre leur propre tradition, qui était le retour, et Madame de Pompadour a joué un grand rôle, au grand goût, c'est-à-dire le goût de Louis XIV. Avec Trianon, ça y est, on revient à quelque chose qui ramène le règne à ses origines, si j'ose dire, versaillaises.
Un mot peut-être des aménagements intérieurs de Marie-Antoinette dans ce petit Trianon. Elle va vouloir changer un peu les meubles. Elle ne veut plus être dans les meubles de Madame du Barry, bien entendu.
Oui, alors même qu'elle s'était effectivement installée tout de suite après le départ de la du Barry, qui a été chassée comme une malpropre. Et Louis XVI n'aimait pas beaucoup, on le sait, cette personne. Évidemment, quand on visite Trianon aujourd'hui, on voit très bien le grand décor voulu par le roi, les tableaux de la jeune école française, la boiserie qui n'est pas dorée, hein, c'est une boiserie avec un
presque
couleur,
une boiserie de campagne, comme
boiserie
on dit,
de campagne, parce qu'on est toujours tourné vers cette histoire du jardin, de l'agriculture, du botanique, et donc il y a ce fameux petit vert Trianon qui a été longtemps un gris un peu triste du 19e siècle et qu'on a restauré. Et puis elle va jeter son dévolu, elle, sur les pièces qui sont à l'arrière de la grande séquence de réception qui a pas bougé, si j'ose dire, de son état Louis XV, et qui sont ces petites pièces merveilleuses. Vous avez fait allusion à la bibliothèque, et puis il y a ce cabinet des glaces, qui est un système de glaces mouvantes. C'est pas unique, on en a d'autres exemples au XVIIIe siècle, mais
c'est
vrai
assez
que c'est
bluffant. Oui.
C'est assez bluffant, puisque donc les panneaux de boiserie se complètent d'autres panneaux qui sont montés sur des rails et qui coulissent et qui, masquant les fenêtres, font croire qu'on est dans une pièce, une œuvre d'art totale, si vous voulez, qui vous enveloppe.
Et qui permet surtout, en fonction du déplacement du soleil, de refléter la lumière et d'avoir toujours une belle lumière dans la pièce. Donc c'est quand même un raffinement. On peut dire que Trianon va très vite devenir le lieu de tous les raffinements et que les architectes, mais aussi les ébénistes, les ornemanistes, tout le monde va essayer de donner le meilleur de son savoir-faire dans ce berceau de la reine, dans ce creuset des arts.
Il est sûr que Trianon, parce que la reine y investit, alors on l'a dit, beaucoup d'argent, mais aussi beaucoup d'elle-même, est un endroit particulièrement à part, et elle fait même une chose merveilleuse, elle fait faire par Châtelet, qu'elle aime beaucoup, des petits albums aquarellés qu'elle offre à ses visiteurs les plus extraordinaires. C'est pourquoi il se trouve de ces albums dans les plus grandes collections européennes, tous les souverains que vous avez cités, qui sont passés là, évidemment sont repartis avec leur petit album, plan, coupe, élévation, vue, perspective, etc., qui donne une espèce de portrait de ce domaine, et c'est un cas assez intéressant, de représentation de l'architecture à des fins diplomatiques et amicales qu'elle donne là à ses invités.
Avec un mobilier qui est à la hauteur, bien entendu, c'est-à-dire qu'on va voir Jacob, notamment l'atelier de Jacob, fournir un mobilier comme on n'en avait jamais vu dans l'histoire du mobilier français. C'est-à-dire que là, on va très très loin dans l'ornementation, dans la recherche, dans le naturalisme aussi, toujours ce soin des les blés, les fleurs, les gerbes.
Et c'est d'autant plus vrai que je crois qu'il faut compléter la liste des artistes de Trianon avec un nom qu'il faut maintenant citer parce qu'il y a la grande exposition au musée du Louvre, c'est Hubert Robert.
Bien sûr.
Et Hubert Robert, qui va beaucoup travailler pour les fabriques, en ce moment l'exposition du Louvre qui est merveilleuse montre très bien le mobilier justement livré par Jacob pour un autre aspect de cette histoire-là qui est la laiterie de Rambouillet. Il ne faut pas l'oublier parce que les deux domaines sont quand même parallèle. Le roi a acheté pour des sommes qui dépassent tout ce qu'on peut imaginer à Trianon, 6 millions de livres, le château de Rambouillet qu'elle appelle la crapaudière, qu'elle n'aime pas. On va faire cette laiterie et on retrouve ce mobilier dont vous parliez à l'instant, qui est un mobilier en bois laissé au naturel, ciré, qui coûte plus cher que le bois doré le plus extraordinaire parce que c'est un espèce de caractère à la fois archéologique et naturel qui fascine les contemporains.
Et puisque vous parlez d'Hubert Robert, ce qui est extraordinaire, et je n'avais jamais compris ça avant qu'un conservateur de Versailles ne me le fasse remarquer, c'est que les fenêtres, notamment du premier étage du Petit Trianon, sont conçues littéralement comme des tableaux ou comme des aquarelles. Et que lorsque vous vous éloignez de 3 ou 4 mètres de chaque fenêtre ou que vous soyez sur le pourtour de cette extraordinaire bâtisse, vous êtes en présence d'un paysage qui a été savamment composé. Et l'on comprend qu'une part non négligeable du talent de Richard Mick dans l'aménagement du fameux jardin anglo-chinois aura été de créer des paysages et des paysages et des paysages destinés à être vus depuis le Petit Trianon. C'était ça au départ.
Oui, le raffinement suprême, c'est ce jeu entre le dehors et le dedans, les points de vue, de même que les contemporains le disent. Faites des jardins comme vous feriez de la peinture de tableaux, si vous voulez. On marche dans le jardin, on marche dans un tableau, apparaissent des choses, disparaissent des choses, et il y a un spectacle en mouvement, et Mick et ses jardiniers vont faire la merveille.
Alors évidemment, la célébrité de Marie-Antoinette est un peu l'arbre qui cache la forêt, si j'ose cette mauvaise image, puisqu'on oublie tous les grands de l'époque, les princes, les riches seigneurs, les fermiers généraux qui se faisaient eux aussi bâtir des folies extraordinaires, des petits parcs de fantaisie. On ne parle que de celui de Marie-Antoinette, et bizarrement, c'était loin d'être le plus exubérant. Elle a voulu pas mal de simplicité, en vérité.
Oui, il y a une forme un peu presque, on dirait, de classicisme.
De timidité, oui.
Dans ce jardin anglo-chinois qu'un historien des jardins décédé aujourd'hui, qui était merveilleux et qui a beaucoup écrit, qui s'appelait Baridon, appelait le jardin de l'homme sensible.
Hein,
c'est tellement juste. Alors, si on veut voir des choses vraiment extravagantes, on aurait pu plutôt aller à Méréville, mais
voilà,
maintenant Méréville, c'est fini. Ou alors, dans le fameux désert de Retz, de Monsieur Racine de Monville.
Passionnant endroit.
Et extraordinaire endroit où là, on a carrément la pyramide, la tombe d'Attar, etc. C'est vrai que chez la reine, un temple de l'amour qui est une tolosse antique, très classique, un rocher qui est très très en dessous, même du rocher des bains d'Apollon de Hubert Robert.
Même de celui de la comtesse de Balbi dans le même
Versailles. Mais... Oui. Le temple du Belvédère qui est un rêve, un petit temple octogonal divin, avec un mobilier aussi très intéressant, qui est conservé seulement en partie. Et puis en revanche, la reine va mettre la barre, si j'ose dire vulgairement, très haut pour le hameau, où là, même s'il y a le hameau de Chantilly de 1775, elle va construire vraiment quelque chose où Hubert Robert joue un rôle majeur, qui change la donne par son échelle et sa qualité d'exécution.
Alors le hameau, on y vient justement dans un instant.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Sur Europe 1, la symphonie de l'horloge composée par Joseph Eden. Retour au Petit Trianon, ses jardins et le hameau de la reine Marie-Antoinette. Franck Ferrand, vous recevez l'historien de l'art français et de l'architecture Alexandre Gady.
Je pense, Alexandre Gady, qu'on s'est fait une image assez fausse de ce fameux hameau de la reine. On a toujours l'image d'une reine complètement désœuvrée, veut jouer à la bergère et se fait bâtir, etc. On n'est pas du tout, en vérité, dans cette optique-là. La vérité, c'est que tous les grands seigneurs de l'époque se font fabriquer, je dis bien fabriquer, là, le terme est voulu, des parcs de fantaisie. Alors, on est tantôt chez les Tatars, tantôt chez les Chinois, tantôt dans des fermes du midi de la France. La reine, elle, veut son village normand, mais parce que ça fait partie, en quelque sorte, des collections d'un riche seigneur. C'est ça l'idée, chez elle, au départ.
Oui, et puis aussi, toute la société est travaillée, non pas par un retour à la nature, ça n'aurait aucun sens, mais par un nouveau regard sur la nature, qui est un regard économique et physiocrate, philosophique avec Jean-Jacques, évidemment, et la méditation de l'homme dans la nature, qui est aussi une méditation historique, et aussi par les différentes civilisations qui sont convoquées dans les fabriques, comme disent les Italiens, ces petits objets qu'on dissémine dans le parc. Évidemment, un rapport à l'histoire des civilisations humaines. On est dans un siècle qui aime évidemment la connaissance, les voyages lointains, la synthétisation des choses. Il y a les uns, les autres. Et donc, on voit que le monde du jardin français, avec ses longues perspectives qui vous emmènent le pouvoir jusqu'à l'infini, tout d'un coup, ça a à nouveau un monde clos dont on peut faire le tour et où on peut passer de la philosophie grecque à la sagesse chinoise, en passant par, je pense, il y avait des pagodes. Il y avait des mosquées, des fausses mosquées hein, dans le parc d'Armainvilliers, par exemple
oui.
Donc on voit là une espèce de syncrétisation des religions, des cultures, parce que c'est un monde extrêmement ouvert.
On fait venir le monde à soi, c'est quand même le luxe suprême. Alors la reine a choisi ce qu'il y a une fois de plus, et on retrouve ce qu'on avait vécu avec le jardin anglo-chinois. Elle va choisir ce qu'il y a de plus simple en quelque sorte. Elle veut, elle, une ferme, des locaux, un petit village qui fasse penser à une Normandie. Oh, c'est une Normandie idéalisée, c'est celle du peintre Oudry en quelque sorte, ce sont ces pastorales du XVIIIe siècle.
C'est exactement ça, on pense à ce très beau tableau du Louvre, et le soin apporté montre qu'il ne s'agit pas d'un joujou, effectivement, c'est d'ailleurs une vraie ferme, il y a une vraie exploitation agricole, il y avait des vrais fermiers, et ce n'est pas elle qui joue au fermier, il y a une vraie ferme, comme il y a la ferme des Mérinos à Rambouillet à côté de la laiterie, tout ça montre que toute cette société aristocratique, et l'exposition de Versailles il y a quelques années sur la science à Versailles avait bien montré que ce n'est pas du tout du gadget ou du décor, ces gens étaient passionnés par la science, comme nous le sommes. Et naturellement, c'est à Versailles que se passaient les choses les plus extraordinaires sur le plan scientifique.
Mais on ne va pas, évidemment, c'est un petit peu comme quand nous faisons, nous, des safaris aujourd'hui. On fait du trekking pendant la journée et le soir, on est dans des lodges de grand luxe. Là, c'est un peu le même principe. C'est-à-dire qu'on veut bien aller voir les moutons et les vaches, mais il faut quand même disposer d'un certain confort. Et dès qu'on franchit la porte de ces masures où l'on a volontairement dessiné en trompe-l'œil des fissures, des ruines, en fait, dès qu'on entre, on est dans ce décor magnifique avec des boiseries somptueuses, tout à fait digne du petit Trianon.
Oui, c'est un très bel endroit, peu connu du public parce que c'est en cours de restauration et certaines pièces n'étaient pas du tout ouvertes. Il y a eu beaucoup de casses.
Elles étaient même pour certaines abandonnées entre nous, oui.
Mais c'est vrai que ce sont des endroits qui évidemment montrent que la campagne, oui, les désagréments, évidemment, non, mais c'est normal. On est chez la reine, c'est-à-dire c'est normalement ce qu'il y a de mieux.
Alors la reine dispose de tout un personnel particulier. Quel est son rapport avec les architectes, notamment pour la construction du théâtre, pour la construction de ces fameuses fabriques du hameau, etc. Que dit-elle à Mick ? Est-ce qu'on sait exactement de quelle façon elle travaille avec lui ?
Alors, elle travaille pour d'Angivillers, le terrible et très habile directeur des bâtiments du roi. Elle travaille par court-circuit. C'est-à-dire que d'abord, elle a inventé l'idée que Mick, qui n'est plus premier architecte parce que le roi supprime la charge en 1776, sera son architecte, l'architecte de la reine. Et naturellement, Mick en profite pour dire « Moi, j'ai reçu des ordres de la reine, veuillez ordonnancer telle dépense. » Et alors, catastrophe, évidemment, dans les finances.
Donc, une petite révolution pour l'administration, il faut le dire.
Elle court-circuite d'abord le directeur des bâtiments. Et puis ensuite, avec Mick, un rapport, comme tous ces souverains qui aiment l'architecture, assez proche. Avec Robert, dont elle affectionne beaucoup le conseil, parce que c'est un homme très habile, très élégant, elle fait faire des maquettes. Ça, c'est très intéressant. On a tous les récits.
C'est Fréret qui fait les maquettes.
Et ces maquettes, on les place sur des grandes planches pour voir comment ça va faire. On regarde le paysage, le point de vue, parce que c'est ça qui est important. Donc elle est très impliquée. Manifestement, elle a mis beaucoup d'elle-même dans ce domaine et c'est ce qui rend évidemment le rapport à Trianon si touchant et en même temps si fort pour un historien.
Nous avons en ligne la présidente fondatrice de l'association Marie-Antoinette, c'est Michel Laurin, que connaissent bien nos auditeurs. Bonjour Michel Laurin.
Bonjour Franck.
On peut dire que c'est à Trianon qu'on retrouve en vérité le fantôme de la reine d'une certaine manière. Et je ne fais pas allusion là à ce qui s'est passé avec nos Anglaises au début du XXe siècle.
Ah, c'est là qu'on ressent sa présence, bien sûr.
Elle est encore très présente, alors aussi bien dans le petit théâtre que dans le hameau, etc. Toutes ces fabriques et toutes ces constructions qui étaient très fragiles, qui avaient l'air d'être éphémères, nous ont été transmises quasiment intactes. C'est miraculeux, ça.
Il y a eu des restaurations.
Oui, certes. Oui.
Heureusement, la famille Rockefeller nous a aidés, nous les a sauvés en début du XXe siècle.
Oui, bien sûr, c'est vrai. On se rend compte, en se promenant tout simplement dans ce domaine de Trianon, Michel Laurin, du degré d'extrême raffinement qui régnait là. On était chez la reine, dans son domaine privé, dans une sorte d'univers idéal qu'elle avait voulu créer.
Eh bien, elle était chez elle, et n'oubliez pas qu'à l'entrée du domaine, vous aviez quand même des instructions et c'était marqué « de par la reine ». C'est quand même la première fois qu'une reine de France se permettait d'indiquer à l'entrée de sa propriété « de par la reine ».
Et en même temps, c'est aussi la première fois qu'un roi de France depuis longtemps n'avait pas de maîtresse ou en tout cas de favorite en titre.
Bien sûr. Et malheureusement, c'est que contrairement à avant où les maîtresses en prenaient plein la figure avec les pamphlets, les ragots, eh bien c'est l'épouse, c'est la reine qui a pris ça de plein fouet. Alors que s'il y avait eu une maîtresse, eh ben, elle aurait pu rester dans l'ombre comme était restée Marie Leszczynska et compagnie.
Est-ce qu'on n'exagère pas le degré de liberté qui régnait à Trianon ? On a l'impression que la reine était en toute simplicité, en toute liberté. Elle restait néanmoins partout la reine de France.
Ah, elle reste la reine de France, bien entendu. Il ne faut pas oublier que quand on regarde le petit Trianon, sur le côté gauche, tous ces bâtiments en longueur, il y a un personnel important, il y a une administration, il y a la cuisine, il y a tout ce que pour faire vivre ce petit Trianon. C'est quand même très important. Elle restait la reine de France, mais elle tenait à la simplicité qu'elle avait connue à Schönbrunn quand elle était enfant, avec sa mère et son père, et même à la Hofburg. Et si vous voulez, elle tenait à une simplicité. Il y avait moins d'étiquettes. Il y avait encore une toute petite étiquette, mais il y avait moins la lourde étiquette qu'elle avait connue avec Madame de Noailles qu'elle avait à Versailles.
Oui, bien entendu.
Bon, déjà par la tenue. N'oublions pas qu'elle ne porte plus les grandes robes à paniers, les coiffures hautes de M. Léonard. Ce sont tout ça des coiffures très simples. On porte du linon, on est habillé en toile de Jouy.
Est-ce qu'on vient souvent à Trianon à l'époque ?
Elle vient souvent. Alors, il faut bien préciser qu'elle vient Bonnefoy Duplan, qui est son concierge.
Son intendant, oui.
Et son homme de confiance, disait toujours qu'après déjeuner, dès qu'il y avait un brin de soleil, il était sûr qu'il allait la voir arriver. Alors, soit elle descendait à pied, accompagnée d'un seigneur et de quelques dames, soit elle descendait en voiture, avec les enfants, avec Madame Élisabeth. Dès qu'il faisait beau, elle était là à Trianon. Et puis, elle avait à surveiller, nous l'avons évoqué tout à l'heure, les travaux, elle aimait bien voir tout ce qui se passait. Elle surveillait son domaine, quand même,
oui,
d'un certain
entendu.
Côté.
Pardon,
Par contre, elle n'a pas fait de longs séjours.
Il faut dire que le château
journées.
De Versailles est juste à côté,
voilà.
Bien entendu.
Et moi, je dis toujours une chose, quand on regarde les dates à laquelle elle a séjourné, puisqu'on a fait l'inventaire dans le Desjardins, en fin de compte, je dis toujours, elle était là en congé payé, parce que c'est des fois 4 jours, c'est 3 jours. Vous voyez, c'est un petit
c'est
peu...
La, c'est la,
si
version,
était...
la version ultra-luxe des congés payés, d'une
voilà,
certaine manière.
Voilà.
Je voulais, Michel Lorrain, que vous soyez là pour cette première émission de la semaine, car il faut signaler à nos auditeurs qui ne le connaîtraient pas, votre forum, Marie-Antoinette, hein, l'existence de ce forum internet très actif et qui est une mine pour ceux qui veulent avoir des renseignements très pointus ou très précis sur la reine, sur sa vie, sur son entourage.
Tout le monde est le bienvenu. Et c'est tout un groupe d'amis qui se manifestent et qui ont des connaissances sur tout, chacun a sa petite spécialité. Il n'y a pas que la reine, on parle de tout.
Voilà, c'est tout un univers d'une certaine manière.
Voilà.
Merci beaucoup Michel Lorrain. Je rappelle que vous êtes présidente fondatrice de l'association Marie-Antoinette. On pourrait dire bien des choses encore sur Trianon et sur ce qui s'y fait en ce moment. C'est un lieu qui est en perpétuelle transformation, Alexandre Gady.
Oui, d'abord parce que l'établissement public a beaucoup investi dans la restauration et du jardin à la suite des tempêtes terribles de la fin du XXe siècle et des bâtiments. Après, le petit château lui-même qui a été restauré, et je voudrais dire ici, je suis assez critique en général avec les restaurations pour pouvoir dire du bien d'une restauration, que lors de cette restauration, on a remis le bel étage du Trianon, c'est-à-dire celui qui est à rez-de-jardin à grands carreaux, alors qu'il avait été mis à petit bois au 19e, et on revoit mieux la logique de l'organisation de la façade. Et en ce moment même, la Commission nationale et monuments historiques ayant été consultée sur ce point, c'est le hameau justement qui est en travaux. Là, il faut dire que les travaux de Patrice Bonnet, l'architecte en chef du château au moment de la donation Rockefeller,
dans les années 1930,
il y a beaucoup de béton qui a coulé, et donc les questions techniques, notamment de hauteur des sols, d'évacuation des eaux, sont lourdes. Ça a abîmé une partie des bâtiments, donc le chantier est en cours. C'est une nouvelle étape évidemment dans la rénovation de ce domaine. On peut peut-être simplement regretter qu'il ait été récemment renommé domaine de Marie-Antoinette. On comprend à la fois la logique commerciale, mais
oui,
peut-être que c'est un tout
idiot.
Petit peu dommage, ça écrase un tout petit peu la richesse du lieu.
Oui, voilà. C'est même complètement idiot, disons-le. Le Louvre et les Tuileries, la fabrique d'un chef-d'œuvre, c'est votre magnifique ouvrage dont vous étiez venu d'ailleurs nous parler il y a quelque temps. Et puis, vous êtes aussi à la tête d'un ouvrage collectif sur l'hôtel des Invalides qui vient de sortir là à l'instant.
Absolument, et lancé par le ministre lui-même au Salon du Livre sur le stand de la Défense, parce que la Défense est aussi un éditeur qui s'occupe de ses bâtiments et de son patrimoine qui est très riche.
Et Dieu sait qu'il y a à dire sur les Invalides. Merci infiniment Alexandre Gady.
Merci.
Nous continuons dès demain cette semaine consacrée personnellement à Marie-Antoinette.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Retour aux origines.
Et en ce lundi de Pâques, ce lundi férié, ce lundi de fête, vous répondez Franck Ferrand à la question de Jean. Il vous demande via le site internet d'Europe 1, europe1.fr, si vous pouvez revenir sur l'origine de l'agneau pascal.
Mais si vous voulez parler de la tradition de l'agneau pascal, et c'est vrai qu'en ce lundi de Pâques, c'est tout à fait indiqué, il faut bien distinguer la signification qu'elle prend dans la religion juive et dans la religion chrétienne. La fête de Pessah, qui veut dire passage en hébreu, la Pâque juive, célèbre la libération du peuple d'Israël et la traversée de la mer Rouge. Lors de la cérémonie du Seder, les Juifs lisent le récit commenté de cette libération du peuple hébreu. C'est dans un livre qu'on appelle Haggadah. Et ce que l'on mange à ce moment-là, ce sont des herbes amères, du pain azim, de la zéroa, un os d'agneau entouré de viande. Pourquoi ? Parce que Dieu inflige à l'Égypte 10 plaies, dont la dernière est la mort des tout premiers-nés, pour punir Pharaon qui refuse de libérer les Hébreux. Et bien, pour ne pas confondre les Égyptiens des Juifs, Dieu a demandé à chaque famille juive d'immoler un agneau mâle et de marquer avec une branche d'hysope trempée dans le sang de la bête le linteau des portes. Voilà l'agneau pascal, si je puis dire, dans la tradition juive. Chez les chrétiens, l'agneau pascal est une des représentations de Jésus lui-même, Jésus donnant sa vie pour racheter les péchés des hommes. L'Apocalypse de Saint Jean emploie à 28 reprises le mot « agneau » pour désigner Jésus. L'agneau fait également référence à l'épisode du sacrifice d'Abraham. Ça nous ramène à l'Ancien Testament. Abraham, qui se soumet à Dieu, qui lui ordonne de tuer son propre fils, s'apprête à sacrifier Isaac. Mais vous savez que Dieu arrête sa main. Abraham égorge à sa place un agneau. Et voilà pourquoi cet animal, depuis si longtemps, figurait au menu des repas traditionnels de Pâques.